On vous doit notamment les relations entre Téhéran et Moscou depuis 1979 aux presses universitaires de France. 8 heures sur France Culture. Le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour. Le conclave sur les retraites doit rendre ses conclusions aujourd'hui. Rebondissement hier, François Bayrou propose une sorte de prime pour les salariés seniors. Les détails à suivre.
Tout le monde devrait évacuer immédiatement Téhéran, dit Donald Trump, avant de quitter précipitamment le G7 au Canada pour rentrer à Washington. Le point avec notre correspondant sur place.
20 personnes sont mortes hier à Gaza en allant chercher de la nourriture dans un centre de distribution humanitaire, affirme la défense civile dans l'enclave palestinienne. Une nouvelle forme de danger pour la population, vous l'entendrez.
Et dans un quart d'heure, le billet politique de Jean-Lémarie, Jordan Bardella, est-il déjà candidat à la présidentielle ?
Est-ce vraiment la fin du conclave sur les retraites ? La dernière réunion est prévue aujourd'hui après 3 mois de discussion, mais François Bayrou s'est dit prêt à accorder quelques jours de plus aux 5 partenaires sociaux qui y participent encore. D'autres, dont la CGT, ont claqué la porte. Le chef du gouvernement propose aussi une sorte de prime pour les salariés seniors. Une partie de sa retraite, en plus de son salaire, pourrait être versée aux salariés qui auraient atteint ses droits et décideraient de rester au travail, a-t-il expliqué, une prise en charge par l'État. Proposition sortie du chapeau et sans fléchage financier, regrettent les syndicats, Wafia Kenich.
La mission qu'on nous a confiée, c'était plutôt de faire des économies, s'étonne une syndicaliste. Personne ne comprend rien à cette proposition, dit un représentant du côté des employeurs. La veille du dernier jour du conclave, cette proposition floue sème le trouble. Car jamais, au cours des 10 réunions hebdomadaires, cette prime n'a été abordée. Pendant 3 mois, les représentants des syndicats et du patronat ont travaillé sans être dérangés par le Premier ministre. Et c'est au moment des conclusions de ces travaux que Matignon intervient, ce que regrette la CFDT, pour qui cette intervention, je cite, « n'est pas un bon signe ». Le premier syndicat de France estime que la veille d'une séance conclusive, l'objectif, c'est d'obtenir un accord sur la pénibilité et les retraites des femmes désavantagées par la réforme Borne. L'UDP ou la CGT, qui ont quitté le conclave il y a plusieurs semaines, s'étonnent aussi de la teneur de cette proposition pour l'organisation patronale. Cela va produire du déficit en plus. Pour le syndicat dirigé par Sophie Binet, c'est, je cite, de l'enfumage. Pour la CGT, François Bayrou, voyant qu'un accord est impossible entre le peu de partenaires restants, essaie de faire diversion. Enfin, l'idée que le conclave pourrait être prolongé de plusieurs jours a beaucoup énervé une participante. En cas de prolongation, dit-elle, ce sera sans moi. J'en ai, je cite, plus que ras-le-bol.
Et ce conclave sur les retraites, il faut que ça se termine ce soir, estime à l'instant Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT. Dans la classe politique, les opposants au recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans continuent de réclamer l'abrogation de la réforme. Se pose alors la question d'une éventuelle censure du gouvernement, mais peu probable à ce stade, Stéphane Robert.
Le Parti socialiste est divisé sur l'éventualité d'une censure du gouvernement Bayrou à l'issue du conclave sur les retraites. Pour nous, l'abrogation de la réforme et le retour à 62 ans restent un objectif sur un cadre socialiste. Maintenant, si la CFDT passe un accord avec le MEDEF, même un accord à minima, il sera difficile de ne pas l'entériner, reconnaît cet élu, tant les liens restent forts avec le syndicat réformiste. Par ailleurs, chez les militants, tout le monde n'est pas d'accord avec la censure. C'est ce qui est apparu à l'occasion du congrès qui vient de s'achever à Nancy. Beaucoup craignent que la chute de l'actuel gouvernement génère une nouvelle période d'instabilité dont il pourrait être tenu comptable. Quoi qu'il en soit, nous allons voir ce qui sort du conclave et ce que propose le gouvernement. Et ensuite, nous allons nous réunir et discuter, tranche un député. Si la question se pose au sein du groupe socialiste à l'Assemblée, elle se pose également au Rassemblement national. Bien sûr que le RN réclame l'abrogation de la réforme des retraites votée en 2023. C'est une réforme injuste, rejetée par la population, explique un député du parti à la flamme. Mais est-il opportun de censurer à ce stade et sur cette question ? Ça reprend cet élu, ce sont Marine Le Pen et Jordan Bardella qui en décideront. Or, le président du Rassemblement national indiquait hier sur RTL que la question de la censure se posera à l'occasion des discussions sur le budget, c'est-à-dire à l'automne, ce qui a priori laisse quelques semaines de répit à François Bayrou et à son gouvernement.
Ils se disent méprisés, stigmatisés. Les services pénitentiaires d'insertion et de probation se mobilisent aujourd'hui avec des actions un peu partout en France pour dénoncer, dit la CGT SPIP, le virage ultra-sécuritaire de Gérald Darmanin et les réformes délétères, selon le syndicat, que le ministre de la Justice entend mener. Le garde des Sceaux va notamment entamer des entretiens en vue d'une réforme du code pénal. Il veut, en s'inspirant du modèle allemand, simplifier radicalement le nombre de peines à disposition des magistrats, Anne Fauquemberg.
Selon Gérald Darmanin, en Allemagne, le système judiciaire tourne autour de trois peines. La prison, la peine de probation et l'amende. Alors qu'en France, 235 peines sont à la disposition des magistrats. Un système qui est devenu illisible, estime le ministre. Parmi ses idées fortes, la mise en place de peines minimales, l'instauration du plaidé-coupable en matière criminelle ou encore la suppression du sursis. Il s'agirait de le remplacer par des peines de probation qui seraient décidées dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, sans forcément passé par le juge d'application des peines. Le syndicat SNEPAP-FSU n'est pas forcément contre, mais à condition que la peine de probation soit décorrélée de la prison, explique Annabelle Boucher. Elle est l'une des représentantes du syndicat.
Décorrélée, ça signifie qu'on enlève la partie prison de la peine de probation. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne l'envisage pas du tout, mais ça veut dire qu'on l'envisage en dernier recours pour les bris de probation qui seraient d'une gravité telle que le passage en prison devient obligatoire. C'est là-dessus qu'on diffère. C'est-à-dire que pour nous, la peine de probation regrouperait aujourd'hui les peines délictuelles que l'on connaît, donc toutes les peines qui sont purgées déjà aujourd'hui en milieu ouvert, mais pas sous la forme que le ministère l'envisage actuellement. C'est-à-dire pas de prison, c'est probation ou prison, bien distincte d'une part. Et donc on valorise la peine de probation qui a démontré son efficacité plus forte que la prison d'ailleurs.
Des états généraux de l'insertion et de la probation ont été lancés il y a quelques mois, mais pas facile pour les 4000 conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de se faire entendre. En termes de représentativité syndicale au sein de l'administration pénitentiaire, leur poids est faible face aux 30 000 personnels de surveillance.
BPCE, la Banque Populaire et Caisse d'Épargne, est épinglée par des ONG. Les principaux géants bancaires mondiaux américains en tête ont accordé plus de 850 milliards de dollars de financement au profit des énergies fossiles l'an dernier, d'après plusieurs organisations, dont Reclaim Finance. Et si les banques françaises marquent dans l'ensemble un certain désengagement, le groupe BPCE, lui, augmente ses financements. Les précisions d'Annabelle Grelier.
Plus 23% par rapport à l'année précédente. Le financement aux énergies fossiles augmente. Principale raison, la baisse des taux d'intérêt en 2024, faisant baisser le coût des emprunts et un contexte général propice au désengagement climatique. L'année dernière, les banques ont encore accordé 429 milliards de dollars aux entreprises qui développent de nouveaux projets d'énergie fossile. 31% proviennent des banques américaines et 21% des banques européennes. C'est l'américain JP Morgan qui occupe la place de premier soutien financier des énergies fossiles au monde avec plus de 53 milliards de dollars l'an dernier. Pour la France, 20 milliards de dollars ont été accordés à ces entreprises en quasi-totalité par quatre banques, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et Banque Populaire Caisse d'Épargne. Si le groupe BPCE arrive en dernière position, c'est la banque française qui affiche les tendances les plus inquiétantes selon Reclaim Finance, étant la seule à avoir augmenté ses financements pour de nouveaux champs pétroliers et gaziers. Depuis 2021, l'ONG reconnaît que BNP Paribas et le Crédit Agricole ont marqué quelques avancées, même si le GNL, le gaz naturel liquéfié, n'est toujours pas inscrit dans leur périmètre des énergies fossiles, ce qui biaise quelque peu les objectifs de décarbonation. Quelques projets ont toutefois eu du mal cette année à se financer. C'est le cas du projet d'un site de production de GNL en Papouasie-Nouvelle-Guinée et la construction du pipeline en Ouganda et Tanzanie de Total Energy. Toutes les banques françaises ont tourné le dos. Des banques françaises qui, selon leur fédération, assurent qu'elles amplifient le financement des énergies renouvelables. Pour 1 euro de financement de la production d'énergie fossile, 2,6 euros financent les énergies renouvelables, indique leur rapport annuel. Des chiffres qui ne sont pour l'heure pas confirmés par les ONG.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Donald Trump a quitté le Canada avant la fin du G7 pour rentrer à Washington.
Avant de partir, le président des États-Unis a signé une déclaration commune aux pays les plus industrialisés qui appelle à une désescalade au Moyen-Orient, affirme le droit d'Israël à se défendre et déclare que l'Iran ne doit jamais avoir l'arme nucléaire. L'Iran et Israël qui sont en guerre depuis vendredi dernier. Bonjour Sébastien Paour.
Bonjour à tous.
Correspondant de France Culture à Washington, les intentions de Donald Trump sont encore floues.
Non, et bien malin celui qui croit savoir. Emmanuel Macron vient d'en faire les frais, à peine embarqué dans son avion Air Force One. Message du président américain pour contredire ce qu'affirmait son homologue français cette nuit. Trump écrit sur son réseau Truth. Emmanuel Macron, en quête de publicité, a déclaré à tort que j'avais quitté le sommet du G7 au Canada pour retourner à Washington afin de travailler à un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. C'est faux, dit Trump. Il n'a aucune idée de la raison pour laquelle je me rends actuellement à Washington, ajoute le président américain. Mais ça n'a certainement rien à voir avec un cessez-le-feu. C'est bien plus important que ça, avant une dernière couche au président français. Que ce soit intentionnel ou non, Emmanuel se trompe toujours. Fermez le banc, on ne sait toujours pas pourquoi Trump quitte le G7 avant la fin. En tout cas, voilà l'Élysée fermement renvoyée dans les cordes.
Alors, à l'heure actuelle, Sébastien, quels sont les éléments factuels dont nous disposons ?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'Israël fait pression pour une intervention militaire américaine contre l'Iran. Que les États-Unis sont les seuls à avoir la bombe capable de percer les installations d'enrichissement nucléaire souterraine iranienne de Fordo. Que l'Amérique renforce sa présence dans la région avec plus d'une vingtaine d'avions ravitailleurs qui sont arrivés depuis 48 heures sur des bases aériennes en Europe. Espagne, Grèce, Allemagne, Italie et Écosse, plus près du Moyen-Orient pour défendre leurs intérêts si besoin. Et que le porte-avions Nimitz fait route désormais vers l'ouest pour rejoindre les autres navires de guerre américains qui sont déjà sur zone.
Sébastien Paour à Washington. Après 5 nuits de guerre donc entre les deux pays, il y aurait plus de 220 morts côté iranien, 24 côté israélien. Des missiles iraniens ont été détectés à l'aube dans le nord d'Israël, affirme l'armée de l'État hébreu. Et il y a quelques minutes encore, des sirènes d'alerte ont retenti. De fortes explosions ont été entendues à Tel Aviv et Jérusalem. De son côté, Téhéran dénonce des frappes israéliennes contre la télévision d'État, faisant 3 morts parmi les employés, selon le média. Une guerre entre deux armées de capacité inégale. L'Iran est affaibli par la perte de plusieurs généraux. Les groupes qu'ils soutiennent dans la région ont aussi perdu des forces. Et son arsenal est diminué par les frappes d'Israël depuis vendredi, Claude Guibal.
Il y a 2 ans pile, l'Iran dévoilait avec fierté son premier missile hypersonique. Un engin d'une portée de plus de 1400 km, capable d'atteindre 15 fois la vitesse du son, tout en transportant une charge de plusieurs centaines de kilos. Un projectile quasi impossible à intercepter, une arme redoutable et donc capable d'atteindre Tel Aviv en quelques minutes. L'Iran en avait déjà tiré un premier l'an dernier, lors des premiers temps de l'escalade avec Israël. Un autre ce week-end. Combien lui en reste-t-il ? Peu, probablement. Mais au-delà, l'Iran possédait surtout avant l'attaque de vendredi l'un des plus gros arsenaux de la région, estimé à 2 ou 3 000 missiles balistiques ou de croisière dont certains capables de parcourir au moins 2 000 km en emportant des charges allant jusqu'à 1 tonne. Environ 200 de ces missiles auraient été tirés depuis samedi, sans compter les drones, point fort de l'industrie d'armement iranienne. Malgré les destructions de stocks, le nombre de missiles restants serait donc important, mais leur utilisation est freinée par la destruction de 120 lanceurs, selon les Israéliens, qui estiment avoir ainsi neutralisé 1/3 des capacités de lancement iranienne.
La guerre continue à Gaza, avec certes des bombardements un peu moins intenses ces derniers jours, mais un danger grandissant à proximité des centres gérés par Israël et les Américains qui distribuent l'aide humanitaire. Hier encore, la défense civile de Gaza a annoncé la mort de 20 personnes parties chercher de la nourriture, Étienne Monin.
Nedal Abdouna vit dans l'est de la ville de Gaza. Il dit que la guerre a changé de visage. Pour les habitants, c'est devenu une guerre de la faim. La recherche de nourriture et la survie sont pour lui les seules préoccupations aujourd'hui à Gaza.
Véritablement, les gens sont occupés à chercher de la nourriture et de l'eau. On ne s'intéresse vraiment pas à ce qui se passe en Iran. On s'en fiche, mais on espère quand même que les deux parties vont trouver un accord qui inclut Gaza.
Après avoir été bloquée, l'aide humanitaire entre au compte-gouttes. Elle est essentiellement gérée par une ONG américaine très critiquée. L'aide n'est pas dimensionnée, les centres de distribution sont pris d'assaut et les Palestiniens sont exposés aux tirs de l'armée israélienne, dit Rami Abou Jamous, journaliste à Gaza.
C'est l'endroit le plus dangereux et c'est l'endroit qu'on ne peut pas l'éviter. La majorité de la population de Gaza dépend d'aide humanitaire, donc dépend de ces centres-là parce que la population est affamée. Et malheureusement, ces centres de distribution, c'est des centres de massacre.
D'après le ministère de la Santé, 300 personnes sont mortes près des centres de distribution. L'armée israélienne justifie des tirs sur les civils en parlant de menaces pour les soldats.
Tandis qu'en Ukraine, des frappes aériennes russes ont fait au moins 14 morts cette nuit à Kiev, d'après les autorités locales. L'une des attaques au bilan le plus lourd depuis le début de la guerre en Ukraine à Kiev, guerre déclenchée par l'invasion russe il y a plus de 3 ans. Ce matin, l'Ukraine dit regretter l'absence de réaction adéquate du monde civilisé. Fin de citation. Le temps aujourd'hui dans l'Hexagone, Météo France prévoit du soleil partout et une nouvelle vague de chaleur, jusqu'à 29 degrés cet après-midi à Paris comme à Lyon, 31 degrés à Bordeaux. 8h15, les matins, la suite, Guillaume Erner.
Eh bien, la suite, on va évoquer les relations internationales, les conséquences de cette guerre entre l'Iran et Israël sur la société iranienne, avec Azadeh Kian, qui est sociologue et professeur de sociologie à l'Université de Paris-Cité, et avec Frédéric Ancel, spécialiste de relations internationales, qui a notamment écrit « La guerre mondiale n'aura pas lieu » aux éditions Odile Jacob, et qui va nous dire quels peuvent être les buts de cet affrontement et dans quelle mesure la situation aujourd'hui est susceptible d'évoluer rapidement. Un billet politique avec vous, Jean-Lémarie, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et le président du RN qui rêve d'une présidentielle anticipée.
Jordan Bardella est-il déjà candidat ?
Vous allez nous le dire dans quelques secondes.
219 millions de consommateurs de cannabis dans le monde, selon l'ONU. Après des décennies d'interdiction, plusieurs États ont récemment choisi la dépénalisation ou la légalisation.
Julie Gacon.
Nous parlerons des États-Unis avec l'essor du cannabisness, du Paraguay où l'État garde le contrôle, des Pays-Bas où les dilemmes de la dépénalisation sont plus nombreux qu'on ne le croit, enfin au Maroc de la nouvelle autoroute du Kif.
Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture présente Peacock, un film de Bernard Wenger.
Grüß Gott, Matthias von My Companion.
Besoin d'un amant cultivé pour impressionner votre entourage? D'un fils parfait pour forcer l'admiration de vos clients? Louez Matthias de My Companion. Il joue tous les rôles. Mais quand Matthias doit être lui-même, le véritable défi commence. Peacock, une savoureuse comédie, le 18 juin au cinéma. Un film France Culture.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Jean-Lémarie, le billet politique. Jordan Bardella est-il déjà candidat ?
Jordan Bardella est un homme pressé. L'élection présidentielle dans 2 ans. Mais si elle intervenait avant ? Il l'imagine. Il le souhaite même. Alors, disons-le tout de suite, aujourd'hui c'est de la fiction. Emmanuel Macron est au pouvoir, il veut aller au bout de son mandat. Mais le patron du RN a son propre scénario. Voilà comment il voit les choses, voilà comment il imagine le calendrier. Le débat sur le budget à la rentrée, une censure du gouvernement qu'il pourrait soutenir, et ensuite, un nouveau Premier ministre, des législatives, non, une présidentielle et rapidement.
Si, évidemment, le budget n'est pas convenable, ce qui me semble être le cas, si M. Bayrou continue à s'enfermer dans l'impuissance et l'inertie, alors il faudra revenir devant les Français. Moi, je crois que seule une élection présidentielle, en réalité, même anticipée, pourra permettre de sortir par le haut d'une crise démocratique que je n'ai pas provoquée.
Vous savez que s'il y a une présidentielle anticipée, Marine Le Pen ne pourra pas être candidate avant le jugement en appel.
De même que s'il y a une élection législative, qui pose d'ailleurs la question de cette exécution provisoire.
Jordan Bardella, hier, sur RTL. Juste un détail, ça ne vous a pas échappé non plus, Marine Le Pen, effectivement, est inéligible sous le coup de cette fameuse exécution provisoire. Elle n'a pas le droit de se présenter, elle attend son procès en appel l'an prochain, son seul espoir pour 2027. Et donc, si la présidentielle avait lieu avant, c'est toujours de la fiction, qui serait le candidat du Rassemblement National ? Jordan Bardella, mine de rien, voilà ce qu'il propose, une présidentielle anticipée, et une candidature, la sienne, scénario explosif.
Bon, pas complètement nouveau.
Oui, mais pas dans cet ordre-là et pas de cette manière-là. C'est vrai, Marine Le Pen envisage une candidature de son dauphin, mais comme un plan B, un recours, si sa condamnation était confirmée, pas dans l'immédiat. Le plan B veut-il devenir le plan A en accélérant le calendrier ? Côté pile, Jordan Bardella défend la députée du Pas-de-Calais et il le fait de toutes ses forces. Mais côté face, il réclame donc une élection à laquelle elle ne pourrait pas se présenter. Quel côté faut-il regarder ? Le côté pile ou le côté face ? Et quel Jordan Bardella faut-il écouter ? Le soutien indéfectible de Marine Le Pen ou l'homme pressé qui rêve du pouvoir ? Avec ses déclarations, il sème le doute.
Le doute ou plus que ça ?
Officiellement, rien n'a changé, Guillaume. Marine Le Pen et Jordan Bardella défendent d'interview en interview ce tandem qu'elle a imaginé. Elle à l'Élysée, lui à Matignon, le tout en 2027. Une élection anticipée ? L'an dernier, elle s'y préparait, elle aussi. Mais c'était avant sa condamnation. Elle n'en parle plus. Car en réalité, tout a changé, évidemment. D'un côté, donc, la fondatrice du parti ne peut plus être candidate, en tout cas pas pour l'instant. Et de l'autre, Jordan Bardella, lui, se sent pousser des ailes. Il est populaire, il vend bien son livre, 200 000 exemplaires, et puis regarde les sondages. Il apparaît au même niveau que Marine Le Pen. Inévitablement, entre eux, une concurrence est en train de s'installer. Quand le Rassemblement national a réuni ses alliés européens, ses alliés d'extrême droite, il y a quelques jours dans le Loiret, les amis de Marine Le Pen ont fait scander son nom. Son prénom à elle et pas le prénom de Jordan Bardella. Et pour que tout soit bien clair, la députée du Pas-de-Calais l'a répété encore la semaine dernière. Je suis la seule candidate à la présidentielle. Pour combien de temps ?
Merci beaucoup Jean-Lémarie pour ce billet politique. Dans quelques secondes, retour sur la question israélo-iranienne. 8h20 sur France Culture.
6h30, 9h. Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et pour évoquer l'aspect géopolitique de cette guerre, nous sommes en duplex avec Frédéric Ancel. Bonjour.
Bonjour.
Frédéric Ancel, vous êtes spécialiste des relations internationales. On vous doit notamment La guerre mondiale n'aura pas lieu aux éditions Odile Jacob. Ici, dans ce studio, Azadeh Khian, vous êtes sociologue franco-iranienne, professeur de sociologie à l'Université Paris-Cité. Vous nous avez expliqué à quel point il y avait des remémorations d'un trauma, celui de la guerre entre l'Iran et l'Irak, à quel point la population iranienne était démunie face à ces frappes, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui d'abri à Téhéran notamment. Azadeh Khian, j'évoquais cette une du Parisien qui se demandait si le régime des Mollahs pouvait tomber. Qu'en pensez-vous ?
Écoutez, je pense que le régime islamique d'Iran était déjà très fragilisé du fait des mouvements sociaux récurrents en Iran. 2018-2019, ce sont des mouvements populaires. Ensuite, 2022, le mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui a été considéré par le régime comme la menace existentielle à ce régime. Et on sait que ce régime a réprimé férocement ses opposants afin justement de se maintenir au pouvoir. Donc c'est un régime qui était déjà très fragilisé, très illégitime et impopulaire. 80% de la population iranienne souhaitait un changement. Sauf que maintenant, imaginez les gens qui sont sous les bombardements, sous les frappes israéliennes, ne savent pas où aller, il n'y a pas d'abri. Il y a même, hier, il y a eu, par exemple, hier, avant-hier, il y a eu dans certains quartiers Téhéran la pénurie du pain. Et donc, les gens sortent pour faire leurs courses et sont susceptibles d'être frappés aussi par des bombardements israéliens, etc. Donc, dans ces circonstances, là, s'attendre à ce que le régime soit fragilisé, j'en doute d'une part. C'est-à-dire que même si le régime est fragilisé, même si le régime tombe du fait de ces bombardements, eh bien, est-ce qu'on a une alternative politique, démocratique déjà en place pour pouvoir remplacer ce régime, ou bien est-ce que l'ensemble de la région sera face au démembrement du pays, au chaos, etc. Ce sont des questions vraiment très importantes à se poser et qui se posent aussi des États de la région. Alors fragilisé au début, vous savez, quand les gardiens de la révolution, les commandants en chef des gardiens de la révolution ont été tué par des frappes, eh bien, je sais pertinemment que beaucoup d'Iraniens de l'Iran et aussi au sein de la diaspora étaient très contents parce que ce sont des gens qui ont joué un rôle prépondérant dans la répression des opposants.
Mais
maintenant, on n'en est plus là parce que ces gens-là, pardon, je veux dire juste ça, ont été remplacés rapidement et l'Iran a envoyé des salves de missiles sur Israël, ce qui veut dire que l'armée iranienne, enfin l'armée des gardiens, n'a pas été déstructurée.
Oui, Frédéric Ancel, il y a eu des salves de missiles dont certains ont réussi à franchir les protections israéliennes avec des morts, avec une sorte d'échec à cet égard pour Benjamin Netanyahou. Qu'en pensez-vous ?
Alors, d'abord, la population israélienne ne débat pas des questions iraniennes. Je veux dire par là que autant les Israéliens sont majoritairement, très majoritairement d'ailleurs, hein, opposés à l'actuel gouvernement israélien. D'ailleurs, entre nous soit dit, c'est vrai depuis le massacre du Hamas du 7 octobre. En réalité, Netanyahou dispose, enfin pâtit d'une très grande faiblesse au sein de la société israélienne. Autant il y a des débats extrêmement importants, houleux, on les voit d'ailleurs très régulièrement dans les rues israéliennes, sur la guerre à Gaza, sur les questions identitaires liées à au dossier palestinien, sur les territoires qui sont occupés ou pas occupés, peu importe. Mais avec l'Iran, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que même la gauche israélienne a toujours considéré qu'il s'agissait d'une menace existentielle, qui n'était que d'ordre militaire. Donc on n'a pas affaire aujourd'hui, me semble-t-il, à une fragilisation de Netanyahou dans l'opinion.
On peut débattre quand même de la manière dont la guerre est menée. Et à cet égard, Netanyahou est comptable devant l'opinion publique. J'ai entendu des Israéliens déplorer les pertes humaines et considérer que Netanyahou aurait dû éviter cela.
Il y en a extrêmement peu. Alors là, je vais vous dire, je suis ça de très très près, comme vous le savez. Il y a toujours des voix dissidentes. D'ailleurs, c'est l'honneur du caractère hautement démocratique de la société israélienne. Mais enfin, quand vous regardez les enquêtes d'opinion, quand vous regardez les rues vides de manifestants à ce niveau-là, je pense que là, pour le coup, Netanyahou et son gouvernement, enfin l'état-major, parce que le gouvernement est composé de gens d'une part fanatiques, d'autre part totalement incompétents sur le plan militaire. Mais l'opinion, en tout cas, suit ses chefs militaires quant à la volonté de détruire cette épée de Damoclès qui pèse sur la société israélienne. Donc il n'y a pratiquement pas de débat à ce niveau-là. Maintenant, si vous me posez la question de savoir quel est ou quel pourrait être l'objectif de ce gouvernement, je vous dirais que si il se contente de l'aspect strictement militaire, et je pense qu'on y reviendra, mais là, ça concerne finalement le monde entier, puisqu'il faudrait revenir au traité de non-prolifération, au Conseil de sécurité qui, à plusieurs reprises, a stigmatisé le régime iranien pour le non-respect de son processus de nucléarisation à vocation potentiellement militaire. En revanche, si Netanyahou a décidé de faire chuter le régime islamique, c'est-à-dire s'il s'engage dans une guerre de nature politique, là je pense qu'on va vers de très très graves déconvenues et encore une fois, je pense qu'il faut découpler les questions militaires des questions politiques, faire tomber un régime, a fortiori le régime islamique d'Iran qui jusqu'à présent n'a pas chuté en dépit de tout ce que Azadekian a très justement rappelé tout à l'heure. Je ne crois absolument pas que ce sont des bombardements israéliens sur des usines de fabrication d'uranium ou d'enrichissement d'uranium en Iran qui vont permettre la chute de ce régime.
Azadekian, est-ce qu'il y avait un soutien de la population pour le programme nucléaire iranien? Est-ce que c'est un but populaire?
Non, pas du tout. Je pense que peut-être sous le président Khatami en début des années 2000, lorsque, par exemple, ils ont accepté d'enrichir l'uranium seulement à 3,5%, je ne vais pas revenir, on n'a pas le temps, sur l'historique, le nucléaire iranien, le nucléaire civil, était soutenu par une partie, en tout cas, de la population à l'époque, parce que ça voulait dire que l'Iran avait atteint la technologie nucléaire, etc. Aujourd'hui, non. C'est-à-dire que la population, et ce, avant même les frappes israéliennes, la population se posait la question pourquoi des centaines de milliards de dollars ont été dépensés pour l'industrie nucléaire, alors que au lieu d'être dépensés pour le bien-être de la population. Il faut savoir que plus de 60%, selon les chiffres officiels, de la population iranienne est sous le seuil de pauvreté avant les frappes israéliennes. Là, maintenant, bien évidemment, ça va s'empirer. Et donc, c'est un programme qui était déjà contesté par les Iraniens qui ne voient absolument pas d'intérêt, d'autant que la seule centrale qui fonctionne et qui produit de l'électricité, c'est la centrale de Bouchehr au sud de l'Iran qui est aux mains des Russes et les Russes qui fournissent eux-mêmes l'uranium enrichi. Donc pourquoi pourquoi enrichir l'uranium à 60% pour à quelle fin et dépenser autant d'argent du pays. Donc non, je dirais que absolument pas, mais pour résoudre ce problème du nucléaire iranien et dissiper les menaces qui pèsent pas seulement sur Israël, mais sur l'ensemble des pays de la région et du monde, ne fallait-il pas continuer justement les négociations entre l'Iran et les États-Unis, c'est-à-dire aller au sixième round dimanche dernier et voir ce que cela donne. Les négociations prennent du temps. On le sait, les diplomates. Hier, j'étais en débat avec un diplomate belge qui, effectivement, était tout à fait d'accord pour dire que ce n'est pas comme ça rapidement qu'on puisse parvenir à un accord entre l'Iran et les États-Unis. Ce matin, j'écoutais les enjeux internationaux. Il y avait une personne qui spécialiste.
Thomas Fraise.
Thomas Fraise, il était vraiment top, très bien.
Je vous invite
clair.
À télécharger, effectivement, cet épisode.
Parce qu'il explique le processus. Voilà, processus. Et on comprend que même si les Iraniens sont parvenus à enrichir le manuscrit à 60% et ça a créé énormément effectivement de débats à l'échelle internationale, mais ils n'étaient pas prêts de la bombe atomique et dans 6 jours, dans 7 jours. Donc c'est ça que je ne comprends pas, c'est ça qui ne justifie pas les frappes israéliennes.
Frédéric Ancel, ces frappes, elles servent à quoi ? Parce qu'on a l'impression que là aussi, détruire le potentiel nucléaire iranien, c'est un peu comme supprimer le Hamas, c'est une tâche difficile.
Oui, c'est extrêmement difficile si l'état-major israélien, mais je ne le crois pas, a décidé de supprimer effectivement l'entièreté, l'intégralité de ce programme. C'est d'autant moins possible que de toute façon, la connaissance théorique et pratique d'ailleurs, hein, des ingénieurs iraniens qui sont d'excellents ingénieurs, elle restera au fond des cerveaux et des ordinateurs. Donc de toute façon, vous ne faites que gagner du temps. Mais attention, là, j'insiste sur une question militaire et stratégique fondamentale. Le fait de gagner seulement peut-être quelques années, peut-être quelques décennies, n'est absolument pas anodin. D'abord parce que les Israéliens peuvent considérer que pendant ce laps de temps qu'ils auront gagné, le régime chutera, notamment de la part, sous les coups de la population iranienne exaspérée. Ça, c'est une possibilité. Et la deuxième possibilité qui ressemble à une certitude, c'est que ces quelques années de gagner, aux yeux de l'état-major israélien, encore une fois, elles auront été mises à profit pour renforcer la protection antibalistique israélienne, notamment à base de ce nouveau système qui fonctionnera avec du laser. Et donc, si vous voulez, quand on me dit « oui, mais c'est reculer pour mieux sauter », certes, mais toute l'histoire militaire et stratégique des temps très longs indique qu'en réalité, il s'agit pour beaucoup de régimes politiques ou pour des armées, de gagner du temps. Mais ce temps peut être parfaitement précieux. Donc, d'un point de vue strictement militaire, ce n'est pas incohérent. Encore une fois, moi, la question que je me pose et qui est absolument, me semble-t-il, essentielle, c'est la dimension potentiellement politique donnée éventuellement par Netanyahou à ces frappes, ce qui poserait beaucoup plus de problèmes.
J'ai sous les yeux un tweet de Donald Trump, Frédéric Ancel, que j'aimerais que vous m'interprétiez. Ce tweet est un tweet où Emmanuel Macron prend une balle perdue, comme on dit. Il explique, Donald Trump, que cherchant la publicité, Emmanuel Macron a dit que Donald Trump avait quitté précipitamment le sommet du G7 pour travailler sur un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, et Donald Trump de dire que c'est quelque chose de bien plus grand qu'il prépare et que cet objectif d'un cessez-le-feu est un objectif qui lui paraît beaucoup trop modeste pour sa grandeur. De quoi peut-il s'agir selon vous ? Quel rôle entend jouer Donald Trump dans ce conflit ?
Donald Trump organise son imprévisibilité de manière fantasque, c'est-à-dire que et on l'avait déjà expérimenté lors de Donald Trump numéro 1, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un véritable enfant roi en matière en tout cas d'affaires internationales. C'est quelqu'un qui a en 2018 retiré les États-Unis en cassant en réalité l'accord qui avait été trouvé en 2015, le 14 juillet 2015, entre la communauté internationale d'une part, l'Iran d'autre part. Et c'est ce même Donald Trump qui, il y a quelques semaines de cela, considérait qu'il allait trouver un accord bilatéral avec les Iraniens en négociant à des conditions moins favorables qu'en 2018 et en envoyant comme chef des négociateurs un promoteur immobilier. Je veux dire, on a affaire à quelqu'un qui, en matière de géopolitique et de relations internationales, ce que je connais un petit peu, est ridicule. Autrement dit, il est très difficile de vous répondre.
Peut-être ridicule, mais il est président des États-Unis.
Eh bien, c'est bien le problème. Mais vous avez tout à fait raison. Et il n'est pas président d'un très modeste État situé hors d'un champ géopolitique complexe. Il est le président de la première puissance mondiale. Et de ce point de vue-là, il est extrêmement difficile de vous répondre. Alors, je vais quand même essayer en un mot. Au regard des faits qui se déroulent aujourd'hui sur le terrain, c'est l'envoi au Proche-Orient d'un certain nombre d'appareils, notamment des appareils ravitailleurs en vol, un certain nombre de chasseurs-bombardiers qui pourraient laisser entendre que les États-Unis vont soutenir davantage encore Israël, voire frapper directement l'Iran.
Ce qui ne serait effectivement pas la même chose, là.
Non, ça ne serait pas la même chose, et je le dis d'un mot, je doute néanmoins que les États-Unis se livrent à ce genre de manœuvre, simplement parce que, je le dis et je l'écris depuis de très nombreuses années, le prisme américain, mais surtout le prisme trumpien au Moyen-Orient, ce n'est pas Israël. Israël n'intéresse que très, très modestement, M. Trump. C'est l'Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite,
On va laisser Azadeh qui en réagir.
Justement, il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudite était le premier pays à avoir condamné avec force les frappes israéliennes contre l'Iran. Ce n'est pas par l'amour pour l'Iran, mais pour aussi l'inquiétude que suscitent ces frappes dans l'ensemble de la région, en particulier pour l'Arabie Saoudite, ce grand producteur de pétrole. Effectivement, je ne pense pas que Trump ait décidé d'intervenir dans la guerre. C'est à la fois contraire à ses promesses électorales aux États-Unis. Il y aura des conséquences très, très dévastatrices pour l'ensemble de la région, c'est-à-dire les alliés arabes des États-Unis dans le Golfe Persique. Personne ne souhaite cette intervention-là. Je pense qu'au final, ils cherchent peut-être à davantage faire pression sur les Iraniens. D'une part, d'autre part, hier ou avant-hier, il a annoncé qu'avec le président Poutine, il a proposé de jouer le rôle d'intermédiaire entre Israël et l'Iran afin de parvenir à un cessez-le-feu. Donc, il change aussi, comme disait Frédéric Ancel, il change de discours tous les jours. Mais en tout cas, je ne pense absolument pas que les États-Unis vont réellement entrer en guerre contre l'Iran aux côtés d'Israël. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Et les Américains, vous savez que les Républicains aux États-Unis sont très divisés aussi en la matière et ne souhaitent pas que Trump ouvre un nouveau front contre l'Iran cette fois-ci.
Mais alors, s'agissant d'un président imprévisible, Azadeh Kian, est-ce qu'il serait imaginable, mais là, il faut prévoir le régime iranien, est-ce qu'il pourrait y avoir à nouveau des négociations entre l'Iran et les États-Unis?
Bien sûr, les autorités iraniennes ont annoncé être prêtes, ça date d'hier, pour reprendre les négociations, d'arrêter les frappes contre Israël si les Israéliens arrêtaient de frapper l'Iran, mais ont annoncé que tant que les frappes israéliennes continuent, ils ne pourront pas retourner à la table des négociations. Mais ils ont dit leur volonté de revenir à la table des négociations, bien évidemment. On va voir comment cette situation sera gérée, mais il ne faut pas laisser Trump décider tout seul quand même, sinon les résultats...
D'un côté, la manière dont l'Iran voulait retourner à la table des négociations était, disons, formulée dans des termes peu acceptables de mon point de vue, puisque l'Iran avait sollicité le Qatar et Oman pour servir de médiateur, afin de mettre fin à la guerre. Mais l'Iran demandait, je cite, une nouvelle souplesse dans les négociations nucléaires avec les États-Unis.
Oui, c'est-à-dire 3,5.
Alors, cette nouvelle souplesse peut être...
C'est ça, parce que les États-Unis ont exigé zéro enrichissement de l'uranium. Les Iraniens disent 3,5, quitte à avoir des inspecteurs américains pour inspecter les centrales nucléaires de l'Iran, etc. Donc, c'est ça. Ils ne veulent pas complètement perdre la face, les autorités iraniennes. Ils ne veulent pas dire aux Iraniens, on a dépensé des centaines de milliards de dollars pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'enjeu est là pour eux à l'heure actuelle.
Frédéric Ancel, vous avez écrit un livre intitulé « La guerre mondiale n'aura pas lieu » aux éditions Edith Jacob. Vous êtes sûr de vous parce qu'on a l'impression au contraire que sur le plan des millénarismes, alors il y a un millénarisme iranien, le millénarisme c'est une forme d'idéologie religieuse, théologico-politique qui considère que athée, la fin du monde n'est pas nécessairement une mauvaise chose. De l'autre côté, du côté israélien, il y a de plus en plus quelque chose chose qui semble s'approcher d'un messianisme, là aussi une forme de millénarisme. Bref, je voulais savoir si vous signiez toujours le titre de votre livre.
Non seulement je signe, je contresigne, et je pense que l'actualité me donne raison. Je veux dire par là qu'on assiste à un additionnement, pas une multiplication, mais un additionnement de conflits locaux et localisés. Ce n'est pas parce que le monde entier parle du matin au soir, et en particulier en Occident, de la guerre en Ukraine, que c'est un conflit qui n'est pas localisé. Ce n'est pas parce que du matin au soir, on parle du conflit entre Israël et le Hamas, ou aujourd'hui entre Israël et l'Iran, que ce ne sont pas des conflits localisés. Je veux dire par là que l'Iran n'a strictement aucun allié militaire, et n'a pratiquement même plus ses proxys. Et on voit bien d'ailleurs...
Peut-être, je ne sais pas, la Russie ou la Chine.
Ah non, certainement pas. D'ailleurs, ça a été très très bien rappelé par Azadi il y a un instant. La Russie, elle est sollicitée comme médiatrice. Vous parlez d'un allié. Alors, dire que non, il y a un accord de partenariat entre Moscou et Téhéran. D'ailleurs, c'est vrai aussi, notamment sur le plan pétrolier, entre la Chine et Téhéran. Ça ne signifie pas une alliance militaire. Ne galvaudons pas ce terme. Et du côté israélien, et là aussi je rejoins ce qui a été dit, les États-Unis n'enverront jamais le moindre soldat pour défendre Israël. Bien sûr qu'ils envoient des munitions, mais c'est très différent. Autrement dit, on assiste dans le monde entier d'ailleurs aujourd'hui à l'additionnement de risques ou effectivement de chutes, enfin
des conflits locaux,
mais qui sont locaux ou qui sont bilatéraux, mais certainement pas de risque de guerre mondiale.
Si par exemple l'Iran décidait d'accélérer son programme nucléaire et de bloquer le détroit d'Ormuz.
Ah bah là, pour le coup, je pense que les Américains, à la tête d'une coalition, interviendraient pour débloquer ce détroit. Mais encore une fois, l'Iran n'aurait pas la capacité politique, diplomatique et encore moins militaire d'entraîner le monde dans une guerre mondiale.
Qu'en pensez-vous, Azadeh Kian?
Je partage cet avis de Frédéric Ancel. On est dans les conflits locaux, mais j'ajoute pour l'instant. Mais je voudrais aussi ajouter que les Iraniens, sont messianiques, comme vous dites, mais sont pas fous non plus, sont assez rationnels de temps en temps, notamment en ce qui concerne leur personnel politique. Ils vont pas fermer le détroit d'Ormuz, sauf s'ils sont attaqués, ils l'ont dit, par Israël ou les États-Unis sur leur installation pétrolière, gazière, sauf si le pays est en train d'être détruit. À ce moment-là, ils vont essayer de le faire. Mais en tout cas, on n'en est pas là et j'espère qu'on n'en sera pas là. Donc effectivement, on n'est pas dans l'hypothèse d'une guerre mondiale, mais j'espère que aussi les guerres locales, quand on les additionne, peuvent avoir des effets absolument destructeurs pour en tout cas différentes régions. Et là, on voit entre la Russie et l'Ukraine, le Moyen-Orient, etc., ça fait quand même une bonne partie du monde qui est concerné par ces guerres locales.
Oui, parce que là aussi, Frédéric Ancel, je veux bien qu'on évoque les additions, mais justement, il n'y a aucune soustraction actuellement. Ce qui est fait par Israël en Iran ne soustrait pas ce qui continue à être fait à Gaza. Les Houthis continuent d'être les Houthis. Enfin bref, ces différents conflits demeurent.
Ce n'est pas faux, mais en revanche, je peux vous dire qu'à l'est du Congo, aujourd'hui, la situation est plus apaisée qu'il y a quelques mois. Alors, c'est une modeste consolation. Mais et quand vous faites tourner le globe terrestre géopolitique, et bien vous constatez que par rapport à ces dernières décennies, et évidemment par rapport à ces derniers siècles, et bien il y a tendanciellement moins de conflits. Encore une fois, attention, on en parle beaucoup plus. La couverture médiatique est infiniment plus importante, par définition, que ce qui se produisait il y a encore quelques décennies et évidemment qu'il y a plusieurs siècles. Ça ne signifie pas que la Terre est à feu et à sang. Ça signifie qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de conflits, mais qui sont globalement moins nombreux. Et pour certains d'entre eux, je dis bien pour certains d'entre eux, moins létaux, moins mortels que d'autres il y a encore quelques décennies.
Bon, mais on pourrait poser une question philosophique sur laquelle on va se quitter. Le bac philo, c'était hier. Est-ce que, justement, les conflits, de par leur importance, doivent être rangés, justement, en termes de locaux ou de non-locaux? Finalement, il y a aussi, hélas, des conflits oubliés, mais des conflits qui peuvent apparaître comme locaux peuvent avoir des répercussions mondiales. Souvenez-vous, le déclenchement de la guerre de 14, c'était l'assassinat d'un souverain. Est-ce qu'on ne peut pas redouter une réaction en chaîne avec ce qui est en train de se dérouler au Proche-Orient ?
Je ne le crois pas, parce que le syndrome de l'été 14, que vous pointez avec raison, aujourd'hui, il n'existe pas pour une raison très simple, c'est qu'il ne... Sauf l'OTAN, dont je vous laisse apprécier la santé en ce moment, sauf l'OTAN, il n'y a aucune alliance militaire multilatérale au monde. Ne cherchez pas, vous n'en trouverez pas. Par conséquent, cette condition sine qua non de l'effondrement du monde, effectivement, à deux reprises, et notamment au XXe siècle, notamment durant l'été 14, aujourd'hui ne prévaut pas, cette condition n'existe pas.
Merci Frédéric Ancel, spécialiste en relations internationales. La guerre mondiale n'aura pas lieu, c'est votre livre, publié aux éditions Odile Jacob. Azadeh Kian, sociologue franco-iranienne, professeur de sociologie à l'université de Paris, cité le 8h45, le journal d'Anne Lorchouin. Ça sera dans quelques secondes, et mes camarades François Saltiel et Lucille Comeau.
Comment capter le chaos du monde sans jamais cesser d'en chercher la beauté? Pour sa dernière exposition avant fermeture, le Centre Pompidou donne carte blanche à Wolfgang Tillmans. L'artiste et photographe allemand investit et transforme l'ancienne bibliothèque publique d'information pour une exposition qui explore plus de 35 ans de pratiques artistiques. Wolfgang Tillmans, rien ne nous y préparait, tout nous y préparait. Du 13 juin au 22 septembre 2025, au Centre Pompidou à Paris. Un partenariat France Culture.
Saltiel et Comeau, bonjour.
Bonjour.
Comeau, de quoi allez-vous parler ?
Une série qui a grande confiance dans la chose politique, c'est rare, et ça s'appelle Parlement, et c'est sur France Télévisions, et c'est formidable.
Et vous avez confiance en quoi, Saltiel ?
Moi, j'ai plutôt confiance en Wikipédia. La question, c'est que ceux de la communauté l'ont moins, surtout dans son usage, dans l'usage de l'intelligence artificielle.
8h45. Le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La Chine travaille à son influence en Asie centrale. Le président chinois est au Kazakhstan pour un sommet et pour soutenir ses nouvelles routes de la soie. Et puis le dossier de ce 8h45 reviendra sur les enfants français encore enfermés dans des camps du Kurdistan irakien. Les sirènes d'alerte se sont rallumées ce matin en Israël après s'être calmées pendant la nuit, après des tirs de missiles depuis l'Iran. De fortes explosions ont été entendues à Tel Aviv et Jérusalem ces dernières heures. Et puis il y a quelques minutes, deux explosions se sont produites dans le nord-ouest de l'Iran, à Tabriz, qui abrite une importante base de l'armée de l'air. Bref, les affrontements entre Iran et Israël ne montrent aucun signe d'apaisement. L'Iran compte par ailleurs 4 morts supplémentaires après l'attaque cette nuit de la télévision d'État. Le bilan total s'approche des 230 morts, 24 morts toujours côté israélien. Le président américain Donald Trump, après avoir exhorté les Iraniens à évacuer Téhéran, a quitté plutôt que prévu le sommet du G7 qui se tient au Canada. Son départ précipité a donné lieu à controverses. Emmanuel Macron avait affirmé que son homologue avait fait une offre de cessez-le-feu à Israël et à l'Iran, et que c'est la raison pour laquelle il repartait à Washington. Donald Trump déclarait plus tard que cela n'avait, je cite, rien à voir avec un cessez-le-feu, que c'était beaucoup plus important que cela et que le président français se trompait toujours. Fin de citation. La Chine, qui appelle par ailleurs ses ressortissants à quitter Israël, n'est pas présente au sommet du G7. Son président est en ce moment au Kazakhstan, où sont réunis les dirigeants des 5 ex-républiques soviétiques d'Asie centrale. La Russie y a perdu de son influence et c'est la Chine qui, avec ses routes de la soie notamment, y affirme son emprise. Ces routes de l'Asie centrale sont indispensables pour continuer d'acheminer les produits chinois vers l'Europe sans passer par la Russie. Pour cette raison, Pékin a donc entrepris de construire 3 énormes tunnels dans les montagnes du Xinjiang pour arriver de l'autre côté de la frontière au Kirghizistan. Pardon. Les travaux viennent de démarrer. Les explications de notre correspondant en Chine, Sébastien Berriot.
Le projet est pharaonique. Dans un relief de montagne particulièrement accidenté, à près de 4000 mètres d'altitude, la Chine a commencé à percer ses 3 tunnels ferroviaires. Le tracé côté chinois démarre dans la région de Kashgar, au Xinjiang, pour arriver de l'autre côté de la frontière, au Kirghizistan. L'objectif premier de cette nouvelle route est clair: contourner la Russie. Aujourd'hui, une grande partie des trains de fret Chine-Europe transitent par le territoire russe, mais avec la guerre en Ukraine, c'est devenu un axe incertain. Les contrôles des autorités russes ont également tendance à devenir tatillons, ce qui ne plaît pas à Pékin. Les nouveaux tunnels vont permettre d'acheminer les produits chinois vers l'Europe, en transitant donc par l'Asie centrale, puis la mer Caspienne et ensuite la mer Noire. tout cela en réduisant le trajet total de 900 km. Ce projet de tunnel a mis de très longues années à aboutir, en raison notamment des réticences de la Russie, mais désormais affaibli face à la Chine, Moscou a fini par laisser faire.
Sébastien Berriot, en France, on devrait savoir aujourd'hui ce qu'auront donné les multiples réunions du conclave sur les retraites, commencées en janvier dernier avec 8 partenaires sociaux et terminées donc aujourd'hui à 5. Il est même question que ce conclave soit repoussé de quelques jours, ce que ne souhaitent pas les syndicats. Hier, François Bayrou a lancé une nouvelle proposition, accorder une prime aux salariés seniors. Une partie de leur retraite en plus de leur salaire pourrait être versée aux salariés qui auraient atteint leur droit à la retraite et décideraient de rester au travail. Initiative qui a manifestement pris de court les syndicats.
Et voici le dossier du 845. Il concerne ces enfants français de djihadistes présumés du groupe État islamique.
Des enfants toujours retenus dans le camp kurde de Roge, dans le nord-est de la Syrie. Une délégation française composée d'associations, d'élus et d'avocats s'y est rendue la semaine dernière. En février, l'administration kurde avait annoncé, en coordination avec l'ONU, son intention de vider, d'ici la fin de l'année, ces camps du nord-est de la Syrie, des déplacés syriens et irakiens qui s'y trouvent, et de ses proches de présumés djihadistes. Mais la France a cessé les rapatriements, et ce, depuis l'été 2023. Or, une cinquantaine de femmes françaises et quelques 120 enfants sont encore retenus dans la région, abandonnés par l'État français, c'est ce qu'estiment leurs familles. C'est un dossier de Florence Turm.
Parmi les 120 enfants encore retenus dans le camp de Roge, il y a les 4 petits-enfants de Marc. C'est un prénom d'emprunt, membre du collectif des Familles Unies. 4 garçons qui ont maintenant entre 6 et 15 ans. Le plus jeune est né dans ce camp.
Ils vivent sous une tente, dans un désert. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de soins, il n'y a pas de protection. Ils ont appris à écrire, ils ont appris à lire. C'est leur mère qui leur a appris. Jamais les autorités françaises n'ont fait parvenir à ces enfants ne serait-ce qu'un livre en français ou un manuel d'apprentissage de la lecture. Pour nous, c'est complètement extraordinaire qu'un état de droit laisse des enfants pendant des années, 7 ans, c'est énorme, c'est toute une vie d'enfant, dans 50 prisonniers. Car ces enfants sont prisonniers. Ces enfants vivent entre des grilles, entre des barbelés, et ils sont coupables de rien.
Le dernier rapatriement organisé par la France date de juillet 2023 et la situation reste bloquée en dépit d'une récente décision de justice administrative qui a annulé les refus opposés par le ministère des Affaires étrangères à plusieurs demandes de rapatriement en France. La plupart motivées par le non-consentement des mères, mais les enfants d'aujourd'hui sont devenus des adolescents, parfois jeunes majeurs, qui expriment leur propre volonté, insiste Marie Dosé, avocate de longue date de ces familles.
Les enfants veulent rentrer. Ils ne supportent plus cette vie qui n'est pas une vie. Ça n'est pas une vie pour ces enfants qui commencent à en vouloir à leur mère de rester ici. Et moi, je l'ai vraiment senti. D'abord, il faut surtout rapatrier et d'urgence tous ces enfants avec les mères qui acceptent de rentrer. C'est ça la priorité, c'est-à-dire qu'on pourrait d'ores et déjà organiser un rapatriement avec 25 majeurs et mineurs là tout de suite maintenant. Et ensuite, il faut cesser de mettre le point, le curseur sur le consentement. Enfin, encore une fois, pardon, mais c'est trop facile. C'est-à-dire qu'au Quai d'Orsay, on m'explique que tant que les mères refusent de voir leurs enfants rentrer en France, ils restent là-bas. Et quand les enfants deviennent majeurs, on m'explique qu'ils sont majeurs, qu'ils ne sont plus des enfants, donc ils ne peuvent plus être rapatriés. Enfin, c'est absolument scandaleux.
La délégation qui s'est rendue dans le camp de Roge en a rapporté des témoignages filmés, des demandes explicites de retour qu'elle va transmettre au Quai d'Orsay. Elle rappelle aussi que de nombreux autres pays, comme l'Allemagne, la Russie ou encore l'Ukraine, continuent d'organiser le rapatriement de leurs ressortissants.
Un dossier signé Florence Sturm. La météo, beau partout, doux au nord, chaud au sud, comptez entre 26 à 33 degrés du nord au sud. Au plus chaud, à vous Guillaume Erner.
Merci beaucoup Anne-Laure Chouin.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
François Saltiel, vous nous parlez ce matin de l'usage de l'intelligence artificielle générative chez les contributeurs de Wikipédia.
Oui, Guillaume, le média américain 404, spécialisé dans l'analyse des enjeux numériques, vient de rendre compte d'une expérience qui a tourné court. Depuis le début du mois de juin, un petit groupe de contributeurs anglophones testait les outils d'IA générative dans la rédaction des pages. Vous le savez, la richesse de cette encyclopédie fonctionne grâce à la vigilance et au temps accordé par des centaines de milliers de contributeurs bénévoles. Cette mission d'édition est laborieuse, exigeante et chronophage. Il était donc naturel que le site se frotte aux promesses des IA génératives. Mais l'accueil a été glacial. La communauté a pointé les risques d'hallucination, les problèmes de lisibilité entre des contenus générés par la machine et ceux issus d'un travail humain. En un mot, les contributeurs ne jugent pas les outils assez fiables pour être déployés officiellement dans le process de publication. Il faut dire que, entre Wikipédia et les agents conversationnels, l'histoire a mal commencé, car les modèles de langage ont puisé abondamment dans cette source pour nourrir leurs données. Pour une entreprise comme OpenAI et son agent ChatGPT, Wikipédia est une aubaine. L'encyclopédie représente 200 millions de pages, des pages de qualité, libres de droit, sur tous les sujets du monde. Sans Wikipédia, il n'y aurait pas de modèle de langage aussi performant. C'est tout le paradoxe. Et la beauté de l'encyclopédie, ce site fait partie des plus fréquentés au monde. Il est devenu un ovni dans le paysage numérique, car il fonctionne sans monétisation, ni économie de l'attention, sans marchandisation des données, ni placement de produits, mais grâce aux dons des usagers et des utilisateurs. Certaines entreprises, comme par exemple Google, donnent régulièrement quelques millions de dollars à la fondation Wikimedia, mais cet argent n'est pas alloué au fonctionnement quotidien, mais bloqué dans un fonds à utiliser en cas de coup dur. Si le GAFAM ici généreux, c'est qu'il s'y retrouve, l'encyclopédie rend le web attractif en drainant un trafic sur son moteur de recherche et la plateforme YouTube qui lui appartient, qui appartient à Google, s'en sert pour nourrir ses notices descriptives.
Bon, mais si on revient à l'IA, la menace, c'est la désinformation.
Oui, la question brûlante n'est pas vraiment celle de l'encadrement de l'IA du côté des contributeurs, mais de la manière dont celle-ci peut être utilisée par certains pour manipuler l'opinion. J'en parlais récemment avec Rémi Gerbert, le directeur de Wikimedia France. Pour lui, l'encyclopédie est un terrain de guerre informationnelle, une menace qui augmente. Avec l'IA, des acteurs peuvent facilement créer de faux sites médiatiques, en multiplier les occurrences pour tromper la vigilance des contributeurs en se faisant passer pour sources crédibles. En un mot, les contributeurs sont devenus des cibles vulnérables. Vulnérable est aussi Wikipédia, récemment attaqué par un Elon Musk qui ne supporte pas que les propos négatifs écrits sur lui soient publiés dans cette encyclopédie qui a gagné d'ailleurs en presque 25 ans ses gages de crédibilité. N'oublions pas que Wikipédia, malgré ses dysfonctionnements et ses limites, reste une rare incarnation, non pas d'une intelligence artificielle, mais d'une intelligence collective.
Merci François Saltiel. Lucille Como, vous voulez évoquer la dernière saison de la série Parlement.
Oui, disponible sur la plateforme de France Télévisions. C'est la quatrième et ultime salve de cette série française créée par Noé Debré et qui raconte les aventures d'un jeune assistant parlementaire dans les méandres de la grande machine européenne. Une série que j'affectionne particulièrement parce qu'elle se tient en équilibre et avec une certaine grâce sur un tout petit espace entre la fonction pédagogique sérieuse et le registre comique. Une série qui se clôt en beauté et dans un élan d'optimisme particulièrement opportun de nos jours. Alors, notre héros, Samy, a gravi les échelons depuis ce jour premier où il tentait de passer les portiques du Parlement européen à Strasbourg pour assister un député français, Michel, plus versé dans les pots de départ et autres déjeuners officiels que dans les négociations et les réunions de travail. Au seuil de la quatrième saison, il est conseiller politique auprès de Valentine Cantel, jeune requine, pur produit de la Startup Nation qui est, elle, devenue commissaire européenne. Ses relations avec elle se sont considérablement dégradées et elle décide d'envoyer balader Samy au Conseil de l'Europe sur un poste fantôme où il ne nuira à rien ni à personne. Mais Samy, mi-naïveté, mi-stratégie, lance devant des journalistes l'idée d'un FBI européen pour sanctionner les crimes environnementaux et se retrouve, une fois encore, au cœur du grand jeu des institutions européennes, alors que le Conseil doit justement se réunir, que la situation allemande, dont la coalition vacille, et l'entrisme de nouveaux acteurs anti-européens mettent à mal tout le processus. Comme toujours, autour de ce personnage principal se tissent d'autres intrigues. On suit sa petite amie anglaise, devenue journaliste sur le web, assez mollement intéressée par les événements, le président allemand du Parlement, titillé dans ses ambitions par une jeune assistante plus féroce que lui, ou encore les relations entre deux jeunes conseillers, l'un français, l'autre allemande, chargés à eux seuls de maintenir l'état des relations entre leurs deux pays.
Et puis, il y a la dimension chinoise.
Oui, inattendu. Parlement, jusque-là, était un petit théâtre en huis clos, tourné dans les couloirs et les assemblées. La quatrième saison réponse augmente d'un petit récit cadre, on y voit une jeune fonctionnaire chinoise chargée d'espionner à distance et par le moyen de micros ce qui se passe à Strasbourg et à Bruxelles. Une jeune femme d'abord perplexe devant la complexité du processus européen et qui finit par se prendre au jeu comme un spectateur devant une bonne série. Cette jeune chinoise, c'est un peu nous. Et son intérêt croissant, son rire devant les aventures des protagonistes, ce sont les nôtres. Tant Parlement parvient à tenir ensemble à la fois une vision politique pertinente et précise de ce qui se passe dans les institutions européennes et une satire très fine, affectueuse, qui ne verse jamais dans le sarcasme, ce qui garantit précisément la réussite de la série. Aussi, quand un supérieur de la fonctionnaire espionne jette un œil au-dessus de son épaule et dit « Ah, ces Européens, ils se moquent sans cesse de leurs institutions », elle ne dit rien, mais on sent qu'elle n'est pas d'accord. Parlement ne moque aucunement les institutions. Il en prend les rouages au sérieux à l'intérieur même de la forme comique. Et même jusque dans la farce, le projet européen est toujours sérieusement envisagé. Sur le mode, en gros, qui aime bien, châtie bien. Et cette dernière saison, avec les adieux de rigueur, est même assez émouvante. Quand elle met en scène avec beaucoup d'agilité et toujours cette même chaleur affectueuse, le rapport de force entre les deux grands acteurs de ce théâtre, les politiques, d'une part, dont l'inconstance et l'inconséquence grandissante effraient, et les techniciens, ces fonctionnaires qui font marcher les rouages avec patience, qui souvent sont ceux qui pensent le mieux les structures auxquelles ils appartiennent. Des techniciens, si rarement représentés dans les fictions politiques, jugés ennuyeux, secondaires, et qui gagnent là, notamment dans un très beau dernier épisode italien, leur lettre de noblesse en même temps que leur médaille comique.
Merci Lucille Como. Un LSD, à entendre, vous savez, LSD c'est la série documentaire, c'est de 17h à 18h et le LSD de cette semaine est consacré aux Fanfares, une histoire en marche, une série documentaire de Jérôme Sandlars réalisée par Benjamin Hu, une belle occasion de célébrer le bonheur d'être ensemble et de se donner du cœur à l'ouvrage, de faire corps, de parader avec tambour et trompette. Festif, vous savez, les Fanfares ont aussi un rôle d'émancipation, une dimension sociale éducative, voire politique, tout ça à retrouver dans le LSD, ce que vous n'allez pas manquer de faire. Xavier Mauduit, bonjour.
Bonjour Guillaume Herner, bonjour en fanfare.
Et un bonjour en fanfare, très précisément à 9h sur France Culture, car figurez-vous qu'il est 9h sur France Culture.